Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de commencer ce cours, le chapitre 12, expliquant les chapitres 12 de Saint Jean, une petite note importante, nous sommes en train de refonder complètement le site internet d'Anne-Marie. Grâce à la générosité de son temps, d'un nouveau paroissien, il s'appelle Guillaume, et qui s'y connaît énormément en informatique, qui est en train de faire un site très moderne, dans le bon sens du terme, avec une fluidité de l'accès aux différentes vidéos, aux différentes sources d'audio, assez extraordinaire. Vous pouvez déjà voir un petit peu, pour ceux que ça intéresse, aller voir un peu le travail qu'il a commencé à faire. Je vous préviens tout de suite que ce n'est pas terminé et que donc on peut déjà accéder au site, mais qu'il est en pleine formation, en plein travail. Donc il y a toute une série de choses encore à corriger, entre autres certaines images qui ne sont pas ce que je voudrais qu'il faut rajouter. Mais vous pouvez déjà aller regarder cela. C'est dame-marie.net, c'est tout simple, dame-marie.net. Et vous pourrez déjà voir le magnifique travail qu'il est en train de composer. Je répète que les choses ne sont pas terminées, parce que c'est lui qui a choisi les images qui accompagnent les différents chapitres ou groupes de fichiers. Et il y a certaines images qu'il faut changer. Je l'ai prévenu, il va le faire, mais ce n'est pas encore fait. Donc vous pouvez regarder. Donc dans le chapitre 12, nous sommes au début du chapitre 12 de Saint Jean, avec les explications données par les pères de l'Église sur le fichier audio qui contient donc les explications des pères de l'Église pour les chapitres 11 à 15. Nous en sommes à la page 10, en haut de la page 10. Nous allons avancer dans ce chapitre 12 où il y a relativement peu de choses très importantes chez les pères. Je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc je vais vous donner ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas tout trouvé. Il y a certainement d'autres choses à aller chercher. Encore une fois, ces cours ne vous empêchent pas d'aller chercher par vous-même. Il ne faut pas croire que c'est à moi de faire tout le travail. Vous devez aussi travailler pour ceux qui s'intéressent. Vous pouvez déjà travailler le cours, c'est la première étape, mais rien ne vous empêche après d'abord de lire très soigneusement les textes que je commente. En ce moment, le chapitre 12 de Saint Jean. Vous pouvez aussi aller directement chercher, par exemple, dans la chaîne d'or de Saint Thomas d'Aquin, davantage de choses. Il y a certainement d'autres choses dans la somme. Moi, j'ai dans la chaîne d'or de Saint Thomas d'Aquin qui explique justement les évangiles. Donc, nous commençons avec les chapitres 1 à 11 de Saint Jean, chapitre 12. Voilà le texte. « Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était mort Lazare, qu'il avait ressuscité. Et on lui fit là un souper. Et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie prit une livre de parfum de vrai nard, d'un grand prix, en oignit les pieds de Jésus. On les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'ayant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit donc « Laissez-la afin Qu'elle préserve ce parfum pour le jour de ma sépulture, car vous avez toujours des pauvres avec vous, moi, vous ne mourrez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent qu'il était là, ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Or, les princes des prêtres pensèrent à faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup d'entre les Juifs se retiraient d'eux à cause de lui, croyaient en Jésus. Il y a dans ce groupe de versets un passage très important sur lequel j'ai déjà insisté. Je répète ce que j'ai déjà dit parce que c'est un point fondamental. Notre Seigneur vient de faire un de ses plus grands miracles. Il vient de ressusciter Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, qui était au tombeau depuis déjà 4 jours. On est un pays qui fait très chaud. Le corps se décompose donc très vite par la chaleur. Il sent mauvais, disait l'Évangile, pour bien nous montrer que non seulement il était mort, mais que le corps le cadavre de Saint Lazare était déjà entré en décomposition. Notre Seigneur, devant une foule importante, va ressusciter cet homme. Lazare sort dehors. Double miracle. D'abord, la résurrection de Lazare. Deuxièmement, Lazare sort avec les pieds et les mains liés de bandelettes, selon la coutume des Juifs. Chose extraordinaire. On pourrait croire que toutes les personnes qui ont été témoins d'un tel miracle devraient immédiatement acclamer notre Seigneur Jésus-Christ, se mettre à genoux, confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, rejoindre l'Église catholique naissante. Eh bien, pas du tout. On voit effectivement un nombre important de personnes qui vont se convertir. Une grande multitude de Juifs, ce verset 9, une grande multitude de Juifs apprirent qu'il était là. Ils vinrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Il est clair qu'un certain nombre de Juifs vont à ce moment-là se convertir à cause de la grandeur extraordinaire de ce miracle qui prouve la divinité de notre Seigneur. Mais il y a cette phrase au numéro 10, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont vu ce miracle extraordinaire se réunissent, les princes et prêtres pensèrent à faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup d'entre les Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, un même miracle, des personnes qui assistent à ce miracle, une partie se convertit, une partie non seulement ne se convertit pas, mais utilise ce miracle non pas pour se convertir, se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour augmenter la haine qu'ils ont envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je pense que c'est le monde moderne, parce que ça répond à une objection qu'on entend extrêmement fréquemment. Les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ ne fasse pas de miracles? Si notre Seigneur Jésus-Christ envoyait un grand thaumaturge aujourd'hui, en 2022, ou permettait qu'il y ait des grands miracles qui se fassent, qui soient faits devant tout le monde, comme preuve de la divinité de l'Église catholique, beaucoup de gens se convertiraient. Je pense que c'est faux. Ce serait faux, ça c'est faux, le raisonnement est totalement faux et on le voit ici avec le verset 10. Malgré le grand miracle que vient de faire notre Seigneur Jésus-Christ, les princes des prêtres, les politiciens de l'époque pensent à faire mourir Lazare. En plus, on voit le ridicule de la situation. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de ressusciter d'entre les morts Lazare et ils veulent le retuer. Il est déjà mort une première fois, il a été ressuscité. Qu'est-ce qu'ils veulent? Une deuxième résurrection pour notre Seigneur Jésus-Christ? Si notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare une première fois, il pourrait très bien le ressusciter une deuxième fois si c'était nécessaire. On voit la mauvaise volonté. Quand il y a la mauvaise volonté qui est là, les jeunes, ces princes et prêtres, ces pharisiens ne cherchent pas le vrai, eh bien ils vont utiliser le vrai pour augmenter leur haine du vrai. Donc même si aujourd'hui Dieu faisait directement ou indirectement des miracles extraordinaires, est-ce que vous croyez que cela obtiendrait la conversion de nos politiciens modernes? Pas du tout. Je pense que ça ne ferait qu'augmenter leur haine de l'Église catholique et leur haine du vrai. Je crois que c'est un point extrêmement important. Dieu respecte notre libre arbitre, même quand nous utilisons ce libre arbitre contre notre Seigneur Jésus-Christ. Contre la vérité. On peut même se poser la question, comment se fait-il qu'ils ne se convertissent pas? Qu'est-ce qui les bloque? Eh bien, tout simplement, c'est un des péchés contre le Saint-Esprit. La haine de la vérité connue comme telle. Ils ont la toutes les preuves de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant toutes les preuves par les prophéties qui ont été remplies par lui, par les miracles qu'il vient d'opérer, entre autres ce grand miracle de la résurrection de Lazare, et malgré ces preuves, ils ne se convertissent pas. Donc c'est aussi une leçon, je pense, pour chacun d'entre nous, là je m'adresse aux catholiques qui m'écoutent sur Internet, c'est une leçon pour nous. Vous voyez, sans la grâce du bon Dieu, il n'y a pas des bêtises qu'ont fait les ennemis de l'Église que je ne sois pas capable de faire aussi vite qu'eux, même plus vite qu'eux. S'ils ne se sont pas convertis, s'ils ont refusé la grâce, sans la grâce du bon Dieu, moi aussi je peux refuser la grâce de Dieu. Car nous sommes tous des, excusez-moi du terme, mais nous sommes tous des pauvres types, moi le premier. Donc il faut se maintenir dans l'humilité. En fait, quel est le péché? Le péché de ces pharisiens, ces princes et prêtres, les politiciens de l'époque, c'est le péché d'orgueil. L'orgueil ferme le cœur. Et il faut rajouter que l'orgueil non seulement ferme le cœur, mais ferme aussi l'intelligence. Et l'intelligence a pour but de nous faire connaître le vrai, puisque l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Donc l'orgueil empêche l'intelligence de découvrir le vrai, et donc va bloquer l'usage de la volonté, volonté qui nous est donnée pour que nous puissions atteindre ce vrai qui a été déterminé et trouvé par l'intelligence. Et donc méfions-nous de l'orgueil. On le voit très bien dans l'église de Vatican II. Regardez toutes les choses les plus ahurissantes qui sont faites à partir de Rome, soit directement à partir de Rome par toutes les hérésies maintenant ouvertement enseignées par Bergoglio à Rome, soit par les conférences épiscopales de l'Église de Vatican II, surtout la conférence épiscopale d'Allemagne ou de Hollande, toutes ces conférences épiscopales du Nord, et même en France, on n'est pas plus brillant qu'eux, qui commencent de plus en plus ouvertement, sans même se cacher, à demander l'ordination des femmes, la reconnaissance du mariage des invertis sexuels, etc. Vous voyez ? Donc maintenons-nous dans l'humilité. Et face à ce comportement des princes, des prêtres, regardez le comportement de ceux qui cherchent Dieu et qui ont pourtant été des gens qui ont été loin de Dieu pendant longtemps. Regardez le comportement de Sainte Marie-Madeleine, c'est tout le début de ce chapitre 12. Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a assisté donc à la résurrection de son frère, Saint Lazare. Elle suit déjà notre Seigneur Jésus-Christ depuis le début de sa vie publique, attention. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un parfum de grand prix, un vrai nard, et en oignit les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc d'un côté, donc les deux, les pharisiens ont assisté à la résurrection de Saint Lazare, pardon. Sainte Marie-Madeleine a assisté à la résurrection de ce même Saint Lazare. Les pharisiens augmentent, en utilisant ce miracle, augmentent leur haine contre notre Seigneur Jésus-Christ, et au contraire, Sainte Marie-Madeleine augmente son amour pour son divin maître. Marie était cette femme pécheresse qui était déjà venue trouver le Seigneur dans la maison de Simon avec un vase de parfum. Donc les pères de l'Église ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux pour savoir qui est cette Marie. Mais là, vraisemblablement, c'est Sainte Marie-Madeleine. Hein, il y a eu plusieurs, au moins deux occasions de cette femme qui a pris un parfum pour oindre les pieds, puis la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut vraiment penser que dans les deux cas, c'est cette même femme, la sœur de Sainte Marthe et de Saint Lazare. Donc, ce fait, dit saint Augustin, en bas de la page 10, qui se répète à Béthanie. Béthanie, c'était là où habitait la famille de Lazare, saint Lazare. Le fait qui se répète à Béthanie est différent de celui que raconte saint Luc, mais il est également raconté par les trois évangélistes, saint Jean, saint Matthieu et saint Marc. Donc, tous les évangélistes parlent de cette femme qui oint les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec un parfum précieux. Dans saint Matthieu et dans saint Marc, le parfum est répandu sur la tête. Dans saint Jean, il est répandu sur les pieds. Mais nous devons entendre que Marie le répandit non seulement sur la tête, mais encore sur les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs positions chez les pères. C'est un exemple typique d'un point de l'évangile qui est expliqué de façon différente par les différents pères de l'Église. Donc, il y a plusieurs explications. Soit il y a eu deux occasions utilisées par Sainte Marie-Madeleine pour oindre notre Seigneur Jésus-Christ. Une première fois, elle a oint les pieds, une deuxième fois, elle a oint la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre possibilité, que Sainte Marie-Madeleine ait oint à la fois les pieds et la tête de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la même session, si vous voulez. Troisième, autre possibilité encore, que ce soit deux femmes différentes. L'Église laisse libre dans ce domaine. L'Église ne s'est jamais prononcée de façon infaillible sur ce domaine. Rappelez-vous ces paroles de l'apôtre. Aux uns, nous sommes une odeur de mort pour la mort, aux autres, une odeur de vie pour la vie. Et vous comprendrez que ce parfum, par ce parfum, comment il était pour les uns une bonne odeur qui donnait la vie et pour les autres une mauvaise odeur qui donnait la mort. Et on le voit très bien ici. Le parfum est une bonne odeur qui va donner la vie à Sainte Marie-Madeleine et à tous les Juifs qui, après avoir assisté au miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de ressusciter Saint-Lazare, vont se convertir. Mais ce même parfum aura une mauvaise odeur qui donne la mort à tous les pharisiens et les politiques de l'époque qui vont, malgré la vision de ce miracle extraordinaire, refuser de se convertir, qui vont se rassembler pour trouver un moyen de faire mourir Lazare et de faire mourir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne vont pas simplement exacerber leur haine contre Lazare. Les princes et prêtres pensèrent à faire mourir aussi Lazare. Ils vont utiliser cette haine aussi pour faire mourir l'auteur du miracle, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà donc la mauvaise volonté. La mauvaise volonté chez ces politiques qui ne veulent pas voir la vérité, qui ne veulent pas se soumettre à la vérité. Et ça fait penser vraiment à tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit très bien la mauvaise volonté, non seulement chez les politiciens, mais aussi, c'est très clair, chez les hommes d'église, de l'église de Vatican II, l'église moderne, bien entendu, qui, en toute connaissance de cause, jette à la poubelle toute la tradition de l'Église. La tradition dogmatique, la tradition liturgique, la tradition morale, tout l'enseignement de l'Église, tout est détruit systématiquement par Bergoglio et ses petits amis. Donc ceci doit nous maintenir dans l'humilité, mes chers frères. Nous maintenir dans l'humilité, moi le premier, sans la grâce du bon Dieu, je suis capable de faire la même chose qu'eux. Sans la grâce du bon Dieu, moi aussi, je peux utiliser le miracle, un miracle extraordinaire qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ pour m'éloigner encore un peu plus de lui. Passons à la page 11. Le Christ voulut nous apprendre ainsi à supporter les méchants pour ne point diviser le corps de Jésus-Christ, celui qui vole l'Église en quelque chose de semblable au traître Judas. Si vous êtes bon, tolérez les mauvais pour obtenir la récompense des bons et ne point partager le supplice des méchants. C'est-à-dire que c'est ça la difficulté, c'est que nous vivons au milieu, dans une société dans laquelle les bons et les mauvais sont mélangés. Il y a d'un côté les enfants des ténèbres, il y a d'autre côté les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous le proto-évangile, en livre de la Genèse. Je mettrai, de livre de la Genèse, je mettrai, dit Dieu au démon, je mettrai entre tes enfants et ses enfants, les enfants de la Vierge, notre Sainte Vierge Marie, je mettrai une inimitié. Il y aura une haine constante, une haine pratique, une haine dogmatique entre les enfants de la lumière qui suivent la Sainte Vierge Marie et qui va donner naissance à notre Seigneur Jésus-Christ et les enfants des ténèbres qui suivent le démon. Le problème, c'est que cette double race, la race de ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, des amis de notre Seigneur Jésus-Christ, et la race de ceux qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, ces deux races sont mélangées. Il faut croire qu'il y a une partie du monde dans laquelle vivent les mauvais, une partie du monde dans laquelle vivent les bons. Les deux sont mélangés. Et donc c'est peut-être ce qui est le plus pénible pour nous, c'est que nous sommes obligés de vivre constamment mélangés avec des gens qui ne veulent pas de Dieu. C'est facile d'être bon avec quand tous les gens autour de nous sont heureux de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Si je le vois très bien chez moi, dans un petit oratoire, on n'a qu'une vingtaine de personnes à la messe ce dimanche, hein, alors qu'on n'en avait que deux personnes il y a encore 2 ans ou 3 ans. Hein, donc on a bien augmenté avec la grâce du bon Dieu. Mais je vois, ça fait vraiment plaisir le dimanche après la messe, on se réunit tous pour prendre un café dehors. Une fois par an, on a même un repas ensemble. Mais tout le monde est heureux de se retrouver là. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens qui ont des âges différents, qui ont des milieux de vie différents, qui ont des positions sociales totalement différentes, qui sont de milieux différents, il faut voir ce qui est. Mais tout le monde parle, tout le monde discute ensemble. Les gens sont heureux de se retrouver. C'est vraiment la famille catholique. Mais ce n'est pas comme ça dans le monde moderne. Dans le monde moderne, on est obligé d'être constamment entouré d'ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est facile d'être catholique quand on est entre nous. Le dimanche, c'est très facile pour nous d'être catholique. Mais c'est beaucoup plus difficile de manifester sa foi par notre façon de nous comporter, notre façon de parler, notre façon de nous habiller et de manifester notre amour de notre Seigneur Jésus-Christ alors que nous sommes entourés d'ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez exemple sur la conduite du Seigneur lorsqu'il vivait sur cette terre. Pourquoi lui qui avait les anges pour le servir, voulut-il que ses disciples eussent une bourse à son usage? Sinon pour nous apprendre qu'il serait aussi permis à son Église d'avoir de l'argent en réserve. Pourquoi permet-il qu'il y eût un voleur dans sa compagnie, si ce n'est pour enseigner à son Église à supporter les voleurs qu'elle aurait dans son sein? Remarquez cependant que celui qui avait contracté l'habitude de voler son maître n'hésita pas à vendre le Seigneur pour une somme d'argent. Une note ici intéressante des pères. Donc il faut aussi que les choses soient claires là-dessus, parce que c'est là aussi ce sont des questions qui troublent certains fidèles, surtout ceux qui connaissent mal l'Église catholique. C'est le rapport de l'Église catholique avec l'argent. Bon. Souvent, les gens nouveaux qui commencent à venir dans nos chapelles nous posent la question: mais monsieur l'abbé, mais comment vivez-vous? Comment est-ce que je vis? Eh bien, je vis uniquement avec des dons. Est-ce que vous êtes sous un vœu de pauvreté? Non, je ne suis pas sous un vœu de pauvreté, puisque ce sont les moines qui sont sous vœu de pauvreté. Je suis sous vœu de chasteté, qui est obligatoire pour tous les sous-diacres, les diacres et les prêtres, et bien sûr au-dessus des évêques. Bon. Mais je suis sous vœu de pauvreté, sous vœu de chasteté, mais pardon, pas sous vœu de pauvreté, ni sous vœu d'obéissance. Je dois pratiquer un esprit d'obéissance, je dois pratiquer un esprit de pauvreté. Il y a une différence entre l'esprit de pauvreté et le vœu de pauvreté. Quand un moine est sous vœu de pauvreté, il ne peut pas posséder d'argent du tout. Il ne peut pas posséder d'argent du tout et il doit utiliser, il ne peut avoir de l'argent que par permission de son supérieur pour un achat spécial. Hein? Donc un moine, c'est pour ça que pratiquer le vœu de pauvreté n'est possible dans la pratique que pour ceux qui sont au monastère. Pour nous, c'est pratiquement impossible. Mais même un prêtre qui n'est pas sous vœu de pauvreté, un prêtre séculier comme moi, nous devons pratiquer l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que je vis avec des dons, et je remercie, j'en profite pour remercier ici tous ceux qui m'aident, soit en donnant directement quelque chose de la main à la main, soit en envoyant quelque chose sur le compte bancaire que j'ai. Et je remercie surtout tous ceux que je ne connais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient de l'argent, parfois des sommes importantes, que je ne connais pas, il n'y a même pas de nom. Ou alors il y a des noms, mais je n'ai pas l'adresse, je n'ai pas le numéro de téléphone, je n'ai pas l'adresse électronique de la personne, je ne peux même pas les remercier. Donc je tiens à les remercier parce que sans eux, ben, je ne pourrais rien faire. C'est pour ça que tous les jours, j'offre mon rosaire pour les bienfaiteurs. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le prêtre doit pratiquer cet esprit de pauvreté. Si je ne me considère pas comme propriétaire de ces dons, je me considère comme le dispensateur de ces dons. Et en quelque sorte, je garde ces dons et que je reçois, et c'est moi qui vais décider qu'est-ce que je vais faire de ces dons. Rassurez-vous, je ne vais pas m'acheter des caramels mous avec les dons financiers que je reçois. J'utilise ces dons en fonction des besoins. Par exemple, actuellement, on est en train de préparer une chapelle plus grande, celle que j'ai beaucoup trop petite. On prépare une chapelle plus grande. Bon, préparer une chapelle plus grande qu'on va pouvoir édifier chez propriété d'un de nos fidèles, tout proche de chez moi, à peu près 20 minutes de chez moi, eh bien, ça coûte évidemment de l'argent, ça coûte même très cher, peut-être plusieurs dizaines de milliers d'euros, on ne sait pas. Eh bien, je vais utiliser les dons pour cela. Je n'utilise pas ces dons pour moi, de façon capricieuse. Ça, je fais très attention dans les dépenses que je suis obligé de faire. pour que ces dépenses soient sages. C'est là, la vertu de prudence doit intervenir, l'esprit de pauvreté, la vertu de pauvreté doit intervenir pour que le prêtre ne gâche pas son argent. D'ailleurs, ceux qui viennent chez moi ont dû remarquer la simplicité de ma vie. J'ai une vie toute simple. On n'a rien de mondain à la maison. Je n'ai pas la télévision. Ma maman, malheureusement, à la maison, à la télévision, dans sa propre chambre, puisque je m'occupe de ma vieille maman, 92 ans. Ça, c'est contre ma volonté, mais je peux malheureusement pas l'empêcher d'avoir la télévision dans sa chambre, parce qu'elle a insisté là-dessus. Bon, mais on vit de façon très simple, dans la nourriture, en tout. Donc, ceci dit, l'esprit de pauvreté n'empêche pas de savoir dépenser de l'argent quand il le faut, dans plusieurs domaines. J'insiste sur ces choses pour que les choses soient claires. Par exemple, quand j'ai besoin de matériel électronique, d'un ordinateur par exemple, pour pouvoir faire mon travail correctement, avoir un site internet qui tourne correctement, pouvoir placer sur ce site internet alors qu'on n'a pas une bonne connexion internet parce que je suis en pleine campagne, eh bien il faut du bon matériel. Eh bien je vais acheter un ordinateur qui est un bon ordinateur pour pouvoir faire correctement mon travail. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'important. C'est pareil, je suis obligé de faire 60 à 70 000 km par an pour les différentes missions, aider les paroissiens droite et à gauche. Eh bien, quand on fait 60 à 70 000 km par an, eh bien, je ne vais pas acheter une deux chevaux. Hein? J'ai une bonne voiture. Une bonne voiture, j'ai une Suzuki, équivalent d'une Toyota Corolla. Parce que c'est des bonnes voitures qui tiennent bien la route. Et aussi, j'ai une grosse voiture parce que j'ai besoin d'un gros volume de coffre pour pouvoir mettre tout le matériel des retraites lorsque je prêche les retraites et aussi pour pouvoir mettre le fauteuil handicapé de maman quand je la sors un petit peu. Vous voyez? Donc, le prêtre doit utiliser justement son bon sens dans l'utilisation des dons qu'il reçoit. Donc, il ne faut pas croire que. Le prêtre fait ce qu'il veut de l'argent. Non, je ne fais pas ce que je veux de l'argent. Je ne vais pas utiliser mon argent pour faire des choses mondaines. Je ne prends même pas de vacances. De temps en temps, je prends une demi-journée pour aller faire un peu de montagne quand mon genou coopère un peu. Et puis c'est tout. Hein? Il faut bien comprendre ça. Le seul argent que, strictement parlant, le prêtre a droit de considérer comme son argent personnel, le prêtre séculier, c'est les honoraires de messe. J'ai déjà expliqué, le prêtre, lorsqu'il reçoit des intentions de messe, en général, les gens donnent un honoraire de messe. Souvent, les gens me demandent quel est l'honoraire de messe en France. Je vous réponds en donnant le chiffre donné par la fraternité, utilisé par la fraternité Saint-Pélis, c'est 18 euros par messe pour ceux qui peuvent. Si quelqu'un me donne une messe sans rien me donner, je dis la messe quand même. Mais lorsqu'en général, il y a un honoraire qui accompagne l'intention de messe, et le prêtre va noter cette intention de messe dans son carnet de messe, et va placer dans un dépôt, un endroit où il garde l'argent des messes. Il n'a pas le droit d'utiliser cet argent avant que la messe n'ait été célébrée. Il faut que les choses soient claires là-dessus. C'est aussi pour manifester cet esprit de pauvreté que je fais même pas de quête chez moi le dimanche. Je crois que je suis l'unique chapelle peut-être en France dans la tradition où il n'y a pas de quête. Je ne fais pas de quête parce que je ne veux pas donner l'impression que je cours après l'argent. C'est pour moi quelque chose d'important et beaucoup de gens l'ont remarqué. Parce qu'il y a plusieurs qui m'en ont fait la remarque déjà. Et aussi, ça permet à ceux qui aux fidèles qui ont parfois peu de moyens financiers, de pouvoir venir à la messe sans être gênés par la quête. Et souvent, d'ailleurs, il y en a qui remplacent ces dons en numéraire par des dons en nature. Les gens qui viennent à la messe et puis qui discrètement vont mettre dans mon congélateur, dans mon frigidaire, des barquettes qu'ils ont fait eux-mêmes, de nourriture la maîtresse de maison a fait elle-même. Et je trouve ça, j'ouvre mon frigidaire et je trouve plein de trucs dedans qui ont été donnés discrètement par les gens. Ils vont mettre des légumes, ils vont mettre des fruits. C'est des choses très belles que j'aime beaucoup. C'est de façon toute simple, ce qui permet à tout le monde qui vient à la messe chez moi d'être parfaitement à l'aise parce qu'il n'y a pas de quête. Des gens qui viennent pour la première fois, des jeunes par exemple, qui n'ont pas encore de moyens financiers, ils sont gênés quand il y a une quête. Ils arrivent à une quête. Ah ben zut, j'ai pas d'argent, je fais quoi? Et puis je suis revenu à cause de ça. Là, il n'y a pas de quête. Il y a un petit panier à l'extérieur. Les gens qui veulent mettre 3 lingots d'or dans le panier, ils mettent 3 lingots d'or dans le panier. Les gens qui veulent mettre 3 pièces de 10 centimes dans le panier, ils mettent 3 pièces de 10 centimes dans le panier. Et les gens qui ne peuvent rien mettre du tout, ils ne mettent rien du tout. Voilà, c'est tout réglé comme ça. Et c'est important, oui, de garder cet esprit de pauvreté. Autre note par les pères de l'Église, toujours en page 11, notre Seigneur prédit ainsi qu'il doit mourir et que son corps doit être embaumé avec des parfums. Et comme Marie, malgré tout son désir, ne pourrait embaumer son corps après sa mort, qui devait être suivie d'une résurrection si prompte, il lui permet de lui rendre cet hommage pendant sa vie. Donc, ce nard exquis, verset 3, une livre de parfum d'un vrai nard d'un grand prix. Sainte Marie-Madeleine va en oindre les pieds de Jésus. Et ce nard exquis, cette bonne odeur, représente la bonne odeur de la vertu. Le catholique doit avoir cette bonne odeur de la grâce sanctifiante. Vous voyez. Et c'est d'ailleurs de toute façon quelque chose d'extraordinaire. On le voit. Ça se voit presque physiquement. Moi, je ne suis pas un saint, il y a des grands saints qui ont eu la grâce, les grâces spéciales du bon Dieu, de sentir, ils sentaient physiquement l'odeur du péché. Quand ils étaient de gens qui vivaient dans le péché, devant des gens qui vivaient dans le péché mortel, eh bien, ils le sentaient, ils sentaient cette mauvaise odeur du péché, et au contraire, ils sentaient la bonne odeur, ce nard exquis des gens qui vivent en état de grâce. Mais ça se voit physiquement. Et parfois, ça va surtout beaucoup plus chez les jeunes filles d'ailleurs, les jeunes femmes. On voit parfois des jeunes femmes qui viennent habituellement à nos messes, par exemple, qui se confessent très régulièrement, qui vivent une vie morale, et ça se sent, ça se voit tout de suite. On voit cette espèce de netteté, de propreté physique, mais aussi de propreté morale. Cette beauté physique et morale à la fois qui rejaillit, ça se voit dans la façon dont elle se parle, la façon dont elle est habillée, ça se voit dans son regard. On voit une femme qui vit habituellement en état de grâce. Et au contraire, devant certaines personnes qu'on peut rencontrer dans la rue, qui vivent dans le péché d'impureté, entre autres, surtout le péché d'impureté contre nature, ça se sent. Non pas physiquement, je ne sens rien du tout avec mes narines, rassurez-vous, mais on sent, on voit le péché dans toute son horreur. On a l'impression parfois d'avoir des cadavres ambulants devant nous. Vous voyez ? Des cadavres ambulants devant nous, parce que ces gens malheureusement vivent dans le péché. Alors avançons dans les témoignages des pères de l'Église, dans le sens mystique. Jésus, en venant à Béthanie 6 jours avant la Pâque, nous apprend que celui qui avait fait tout l'univers en 6 jours et créé l'homme le 6e jour était venu racheter le monde au 6e âge du monde, le 6e jour de la semaine et à la 6e heure. Donc ce sont des chiffres symboliques pour... expliquer justement que notre Seigneur Jésus-Christ va choisir de mourir au 6e âge du monde. Donc, au verset 2, il est parlé d'un souper, de ce festin, donc ce souper qui a été préparé pour notre Seigneur. C'est la foi de l'Église qui opère par la charité. Marthe sert le Seigneur dans toute son âme fidèle qui offre à Jésus l'hommage de sa piété, de sa dévotion. Donc nous aussi, nous devons en quelque sorte, il y a un sens mystique qui est très beau là, on lui fit un souper, Marthe servait. Vous voyez ? Eh bien nous aussi, nous devons préparer un souper à notre Seigneur Jésus-Christ qui vient en nous. Et il faut servir à table, servir à table. Le prêtre est le serviteur des serviteurs de Dieu. Le catholique est le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut vraiment que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se présente à la porte de notre âme, eh bien que nous puissions ouvrir la porte avec la plus grande déférence, le plus grand respect, et immédiatement accompagner notre Seigneur Jésus-Christ à la table d'honneur, à la place d'honneur de la table, et le servir. Vous voyez, c'est le symbole d'une âme qui s'ouvre à la grâce. L'âme qui s'ouvre à la grâce fait rentrer notre Seigneur Jésus-Christ et place notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, sur le siège d'honneur de l'âme, au centre même de l'âme. Donc c'est le symbole de l'acceptation par la foi de l'Église, de l'acceptation de la charité incarnée qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lazare, était un de ceux qui étaient assis à table avec lui, donc c'est marqué au verset 2, Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Lazare, donc, est la figure des pécheurs qui, après être morts au péché, sont ressuscités, avec une faute d'orthographe que je dois corriger, sont ressuscités à la justice, se réjouissent de la présence de la vérité avec ceux qui ont persévéré dans la justice et se nourrissent avec eux des dons de la grâce céleste. Donc, il y a ceux qui vont servir à table et ceux qui vont jouir directement de la compagnie intime de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des moments où il faut servir. Et des moments où on peut s'asseoir au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Sainte Marie-Madeleine est au pied de notre Seigneur et jouissait de la conversation, des paroles divines de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie a choisi la meilleure part et cette meilleure part ne lui sera pas ôtée, dit notre Seigneur. Donc c'est à Béthanie que se célèbre ce festin, et avec raison, car Béthanie veut dire maison de l'obéissance, et l'église vraiment la maison de l'obéissance. Il n'y a pas d'église sans obéissance. Obéissance à la foi de l'église, obéissance à la doctrine de l'église, obéissance aux coutumes de l'église, obéissance à la liturgie de l'église. Vous voyez, un prêtre est quelqu'un qui doit d'abord pratiquer la vertu d'obéissance. Rappelez-vous les trois grandes vertus sacerdotales. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Pour cela que le prêtre garde autour de son cou l'anneau de l'esclave qui est symbolisé par le col romain qu'il porte autour de son cou. L'anneau de l'esclave, l'obéissance, la simplicité, la couleur noire de la soutane qui représente la pauvreté, l'esprit de pauvreté, et la ceinture autour de ses reins qui représente la chasteté. Alors, rentrons un petit peu dans les détails avec saint Augustin. Le parfum que Marie répandit sur les pieds de Jésus est le symbole de la justice. Et c'est pour ça qu'il y en avait une livre. C'est un parfum de nard pur d'un grand prix, car le mot pistici, c'est le mot utilisé pour désigner le mot parfum en latin, veut dire foi. Donc, cette foi qui embaume tous les assistants représente la vertu de justice. Il représente tout simplement la foi de l'Église catholique. Donc le festin lui-même représente la foi, le parfum plus particulièrement représente la vertu de justice qui ne fait rendre à chacun ce qui est dû. Donc en oignant les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien Sainte Marie-Madeleine rend à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons aussi faire la même chose. Nous devons oindre les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ en donnant à Dieu ce qui est à Dieu. Et qu'est-ce qui est à Dieu? Tout est à lui. Donc notre âme doit lui appartenir complètement. Au contraire, quand je vis dans le péché, je vole la gloire accidentelle qui n'appartient qu'à Dieu, et en commettant ce péché, j'enlève cette gloire des mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je refuse de oindre les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ avec un parfum odoriférant, et au contraire, je touche notre Seigneur Jésus-Christ avec des mains toutes sales, des mains qui empestent le péché. Vous cherchez à opérer la justice, rappelez-vous que le juste vit de la foi. Couvrez de parfum les pieds de Jésus par une vie sainte. Suivez les traces du Seigneur, essuyez ses pieds avec vos cheveux. C'est-à-dire, si vous avez du superflu, donnez-le aux pauvres et vous aurez essuyé les pieds du Seigneur, car les cheveux sont comme une partie superflue du corps. Rien. Donc, les cheveux, ici, d'après les pères de l'Église, représentent le superflu qu'il faut donner. C'est pour ça que Marie-Madeleine, qui avait utilisé sa chevelure pour offenser Dieu pendant longtemps, quand elle vivait une vie de pécheresse, elle attirait les regards des hommes par la beauté de sa chevelure, et bien maintenant elle va se mettre aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et essuyer les pieds qu'elle vient de oindre avec un nard précieux, elle va essuyer ses mêmes pieds avec sa chevelure pour s'obliger à utiliser ce qu'elle a, la partie de son corps, la chevelure qu'elle avait utilisée pour offenser le bon Dieu, elle va utiliser cette même partie de son corps, cette fois-ci pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, autre note importante des pères, dans ces Alcuins qui parlent, remarquez que la première fois, Marie-Madeleine avait répandu ses parfums n'avait répandu ses parfums que sur les pieds de Jésus. Ici, elle les répand à la fois sur les pieds et sur la tête. D'un côté, ce sont les commencements de la vie pénitente. De l'autre, c'est la justice des âmes parfaites, car la tête du Seigneur figure la hauteur sublime de sa divinité et ses pieds l'humilité de son incarnation. Ou bien encore, la tête, c'est Jésus-Christ lui-même. Les pieds, ce sont les pauvres qui sont les membres. Alors, il y a plusieurs interprétations des pères qui expliquent que, vraisemblablement, il y a eu deux occasions que Sainte Marie-Madeleine a utilisées pour oindre notre Seigneur Jésus-Christ. La première fois qu'elle l'a fait, d'après sa conversion, elle n'a oint que les pieds. Elle n'a pas osé s'approcher de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième fois qu'elle fait cela, c'est juste avant sa passion. Et cette fois-ci, elle va oindre la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elle n'est plus une femme de péché. Elle a complètement changé de vie. À force de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, elle s'est imprégnée de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez. Et cette fois-ci, elle oint la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, qui figure donc la hauteur sublime de la divinité de notre Seigneur. Donc, on peut dire d'une certaine façon que oindre les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est reconnaître son incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, l'homme marche sur ses pieds. Et au contraire, oindre la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le symbole de la rédemption. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, et après sa mort sur la croix, va ressusciter d'entre les morts pour remonter au ciel le jour de son ascension. Et donc, c'est un symbole de la hauteur sublime de la divinité. La maison fut remplie de l'odeur du parfum, c'est-à-dire que le bruit de cette action s'est répandu dans le monde entier comme un parfum d'agréable odeur. Autre explication, Saint Augustin, le parfum représente la justice, donc on l'a déjà vu, hein, le parfum que Marie répandit sur les pieds de Jésus est le symbole de la justice. Donc, dont le poids était exact, Marie oignait les pieds du Christ comme pénitente, mais maintenant, avec la justice des parfaits, ayant dépassé les rudiments de la pénitence, elle oint sa tête et ses pieds. On voit très bien, donc, vraisemblablement, la première occasion, elle n'ose pas oindre la tête de notre Seigneur Jésus. Elle s'estime indigne. La deuxième fois, au contraire, juste avant la passion, elle va honorer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la tête est le symbole de l'intelligence, le symbole de la divinité ici pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la livre de nard, un poids exact, est la perfection de la justice. Elle oint la tête qui prêche les hautes doctrines du Christ et les pieds qui respectent les plus petits commandements. Donc, oindre les pieds, c'est en quelque sorte écraser sous ses propres pieds les péchés du passé. Oindre la tête de notre Seigneur Jésus-Christ représente la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous oignons donc le Christ avec les bonnes œuvres qui doivent être dégagées de toute faute. Donc la tête est la noblesse de la divinité, les pieds l'humilité de l'incarnation. Donc on peut changer légèrement la phrase, en disant que la tête est la noblesse de la rédemption, les pieds l'humilité de son incarnation. Dans la croix, les pieds sont crucifiés vers le bas, symbole donc de cette union à la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ prend une nature humaine, il va fouler de ses propres pieds la terre d'ici-bas, mais sa tête, elle n'est pas crucifiée. Ce sont les mains et les pieds qui sont crucifiés. La tête qui monte vers le ciel est le symbole de la divinité, de la rédemption. On peut aussi dire que la tête est le Christ et les pieds sont les pauvres qui sont ses membres. Donc ça, c'est une phrase qui a déjà été plus ou moins expliquée. Nous l'éloignons quand nous donnons l'aumône. Donc il y a différents, vous voyez, on voit très bien ici que il y a plusieurs façons d'expliquer les choses. Mystiquement, la maison fut remplie de la bonne odeur du parfum. La maison fut remplie de l'odeur du parfum, verset 3 du chapitre 12. Le monde entier, dit saint Augustin, fut rempli de la bonne réputation de sa piété et de sa vertu. La piété, la vertu de Sainte Marie-Madeleine, et son acte va être expliqué dans le monde entier. Une remarque intéressante de Saint Bernard en bas de la page 11. Le Christ demande aux prélats de confier les affaires temporelles aux autres, mais de se réserver les matières spirituelles afin que nombreux soient ceux qui font le contraire. Bon, ça a toujours été un problème dans l'église, il y en avait ce qui est, de prêtres qui ne pratiquaient pas du tout cet esprit de pauvreté dont j'ai déjà parlé au début de ce cours. Et les prêtres, des évêques surtout aussi, qui ont scandalisé certainement beaucoup d'âmes par un manque d'esprit de pauvreté. Au contraire, on voit chez les saints évêques, des évêques qui ont été canonisés par l'Église, prenez l'exemple je sais pas moi, de Saint Charles Borromée par exemple, de ces grands évêques, de ces grands papes qui justement ont marqué leur temps par leur esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Je sais plus quel est l'évêque, le Saint-Évêque qui a dit, c'est chose qu'un évêque a le droit de laisser derrière lui, c'est des dettes. Bon, il comprend dans le bon sens cette phrase. Il faut bien expliquer que un prêtre, un malheur à celui qui emmagasine, si vous voulez, pour faire des réserves quand c'est pas nécessaire. Ceci dit, il faut avoir du bon sens. Bon, il est évident que surtout pour les temps qui courent, un prêtre aurait le droit de mettre de l'argent de côté pour justement pouvoir payer ses dettes, payer ses factures et aider les pauvres. Le prêtre a l'obligation d'aider les pauvres autour de lui. Alors rassurez-vous, je ne vais pas donner cet argent que je reçois, qui a été gagné si durement par ceux qui sont généreux avec moi, pour faire du n'importe quoi. Mais j'aide un certain nombre de familles. Je suis le seul à le savoir. Je connais les gens, je ne donne jamais les noms des familles que j'aide, mais j'aide certaines personnes qui sont dans un grand besoin. Parfois, le maire de famille me téléphone au 20 du mois, en disant, Monsieur l'abbé, j'ai plus rien pour nourrir les enfants. J'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 enfants. Monsieur l'abbé, vous me connaissez, j'ai plus rien. Est-ce que vous pouvez envoyer quelque chose, s'il vous plaît? J'aide en envoyant un peu d'argent pour aider cette mère de famille à finir les fins de mois et à nourrir les enfants. Oui, parce que j'estime que, encore une fois, je ne suis que le dispensateur des biens, des dons que je reçois. Je refuse catégoriquement de me considérer comme le propriétaire des dons que je reçois. Passons à la page 12. C'est encore deux commentaires sur cette première partie du chapitre 12. Page 12. La possession des biens en commun n'empêche pas la perfection. La pauvreté est un instrument de perfection, car elle enlève les soucis que nous avons à acquérir et préserver les richesses, à les aimer, à nous enorgueillir. Elle enlève les soucis que nous avons à acquérir et préserver les richesses, à les aimer, à nous enorgueillir et les posséder. Et ce n'est pas du tout un péché d'avoir une certaine aisance financière. Un père de famille, par exemple, a le droit d'essayer d'avoir une certaine aisance financière pour pouvoir nourrir ses enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager quand cette aisance financière n'est pas là. Bon. Un prêtre a aussi le droit d'avoir une certaine économie, à condition de ne pas utiliser ses économies de façon déraisonnable et ne pas les utiliser pour ses caprices personnels. Vous voyez? Il peut même y avoir des imprudences de ce côté-là. J'ai connu des prêtres qui étaient, à mon avis, très imprudents, en se lançant dans des achats, par exemple, dispendieux, sans avoir suffisamment de réserves pour pouvoir honorer ses factures. Monseigneur Lefebvre exigeait, lorsqu'on achetait une maison pour la fraternité, qui est déjà un minimum entre les mains de la fraternité Saint-Bélise, à l'endroit où on a acheté la maison, pour pouvoir payer les premiers frais. Vous voyez, il ne fallait pas entièrement compter sur la Providence en disant j'ai besoin d'une grande maison, d'une maison de retraite, j'ai besoin d'1 million d'euros pour construire ma maison de retraite. Allez, je me lance dans les commandes de matériel, dans les commandes de la maison pour un architecte, et puis Dieu pourvoira. Ce serait de l'imprudence. Ce serait de l'imprudence. Donc il faut attendre que Dieu nous indique par les dons qui arrivent que c'est la volonté là. Moi je l'ai vu alors, de façon extraordinaire il y a quelque temps, là, je venais de décider avec un de mes amis, qui était aussi un de mes paroissiens, qu'on allait vraisemblablement utiliser une des granges qu'il avait sur sa propriété, qui était dans un assez mauvais état, qu'on allait pouvoir utiliser cette grange pour pouvoir faire une chapelle plus grande pour mes fidèles le dimanche. Et j'avais dit, mais combien pensez-vous qu'il faille pour pouvoir... Combien d'argent nous aurions besoin pour pouvoir faire les travaux, même en faisant en grande partie nous-mêmes, pour pouvoir faire ces travaux, pour avoir une chapelle correcte. Il m'a donné une somme, il m'a dit, voilà, ce serait à peu près telle somme. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu cette somme. J'ai reçu cette somme d'argent d'un autre paroissien qui ignorait totalement que j'ai recherché l'argent pour pouvoir payer la chapelle, les travaux de la chapelle, et qui m'a donné cette somme. Et je lui ai dit, c'est la somme que vous venez de me donner correspond plus ou moins à ce dont je vais avoir besoin pour faire cette chapelle. Donc nous allons l'utiliser pour la plus grande gloire du bon Dieu. Les posséder en commun, alors je prends cette phrase. Donc posséder ces biens en commun n'amène à aucun de ces maux, n'empêche pas la charité, même la promeut. Et mettre en réserve les choses qui sont nécessaires à l'homme et à les acheter à un bon temps cause peu d'anxiété. Donc ce n'est pas un péché pour un prêtre de faire attention à ce qu'il achète, d'essayer de trouver des occasions pour avoir des choses de meilleure qualité ou pour avoir les choses de meilleure qualité à meilleur prix. J'avoue que je passe beaucoup de temps quand je change de voiture à cause de mon kilométrage. Je fais 60 à 70 000 km de voiture par an. Je change de voiture tous les ans parce que ça me coûte moins cher. Et je prends du matériel neuf ou quasi neuf pour éviter d'avoir tas de problèmes avec les voitures. Mais je passe beaucoup de temps, au moment où je décide le changement de voiture, même déjà plusieurs mois à l'avance, je passe beaucoup de temps pour voir les meilleures occasions que j'ai. Je fais exprès de revendre ma voiture quand je veux la changer au garage de la même marque, en rachetant un véhicule de la même marque pour pouvoir justement avoir des prix de plus en plus intéressants. J'arrive à avoir des voitures en bon état qui correspondent à ce dont j'ai besoin, parce que pour moi la voiture est un outil à des prix très intéressants. Et quand je donne parfois le prix auquel j'ai acheté ma voiture, les hommes qui m'ont posé la question ouvrent des yeux ronds, comment vous faites pour avoir des prix pareils? Bien, je fais attention justement à revendre ma voiture dans l'année avec un kilométrage de 60 à 70 000 km au garage où je l'ai acheté, donc ils connaissent la voiture et ils savent que je change de voiture tous les ans. Évidemment, bien, comme ils sont intéressés de me garder comme client, bien, ils baissent beaucoup les prix. Oui. Et on peut faire des choses comme ça n'empêche pas d'utiliser son intelligence pour justement pratiquer cet esprit de pauvreté. Donc acheter une bonne voiture qui correspond à vos besoins, c'est de la prudence, mais on a le droit d'utiliser son intelligence pour essayer d'obtenir ce matériel dont j'ai besoin dans les meilleures conditions possibles. Avançons dans chapitre 12, versets 12 à 19. Le lendemain, une foule nombreuse qui était venue pour la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches de palmier et alla au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, ainsi qu'il est écrit « Ne crains pas, point, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Les disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais après que Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent alors qu'elles avaient été écrites à son sujet et qu'il les lui avait faites. La foule qui était avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pour cela aussi que la foule vint au-devant de lui, parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Et les pharisiens dirent donc entre eux, voyez, vous, que nous ne gagnons rien, voilà que tout le monde va après lui. Vous voyez, dans ces derniers versets, on retrouve la même histoire, c'est-à-dire que les pharisiens, les politiciens de l'époque, sont jaloux de l'autorité naturelle et surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ, sont jaloux de voir que tout le monde va après lui, au lieu de se réjouir de la conversion des gens, eh bien, cherchent déjà un moyen de se débarrasser de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va expliquer un petit peu tout ça. Donc, notre Seigneur va s'asseoir sur le petit d'une ânesse, un ânon. Qui n'avait jamais encore été utilisé pour transporter des choses. Et donc, c'est le symbole de l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? On retrouve la même image dans la parabole du bon Samaritain, que vous connaissez sans doute. Donc, cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui tombe entre les mains des brigands, qui lui prennent tout ce qu'il a, qui le laissent à demi-mort sur le bord du chemin. Le bon Samaritain arrive, il va verser l'huile et le vin sur les plaies du mourant pour le soigner, et puis il va le prendre et le mettre sur sa propre monture, un âne. Eh bien, cette monture représente l'humanité sainte de notre Seigneur. L'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ qui va porter en quelque sorte la divinité de notre Seigneur. Voilà. Donc notre Seigneur s'assoit sur l'âne, il s'assit dessus, et ça représente justement l'union entre la divinité et l'humanité de notre Seigneur. Voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet-là, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. La loi ordonnait que le 10e jour de la lune du premier mois, chacun prit un agneau ou un chevreau et le garda dans sa maison jusqu'au 14e jour de ce mois, au soir duquel on devait l'immoler. Voilà pourquoi l'agneau véritable, l'agneau sans tache, notre Seigneur Jésus-Christ, choisi dans tout le troupeau et qui devait être immolé pour la sanctification du peuple, se rendit à Jérusalem 5 jours avant son immolation, c'est-à-dire le 10e jour de la lune. Les rameaux de palmier sont la louange et l'emblème de la victoire que le Seigneur devait remporter sur la mort en mourant lui-même. Et du triomphe qu'il devait obtenir par le trophée de la croix sur le démon, le prince de la mort. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est l'agneau sans tache. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. On le dit avant la communion. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui sauve les, qui efface les péchés du monde. Genus Dei, quitolis peccata mundi. Quitolis peccata mundi, qui enlève les péchés du monde. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, justement, est l'agneau qui va être immolé. Il y a un sacrifice. La passion est d'abord un sacrifice. La Sainte Messe est d'abord un sacrifice, puisque la Sainte Messe n'est que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Qui dit sacrifice dit mort de la victime et dit aussi séparation, évidemment, entre le corps et le sang. Dans l'Ancien Testament, lorsque le grand prêtre sacrifiait un agneau pour le peuple, eh bien, il séparait le corps et le sang de l'agneau. Le sang était mis dans un réceptacle, dans un vase, et le grand prêtre prenait une branche d'hysope, la plongeait dans le sang et aspergeait le peuple avec le sang de l'agneau. Mais c'est le symbole évidemment de notre Seigneur Jésus-Christ qui meurt pour chacun d'entre nous. Qu'était-ce pour le roi éternel des siècles de devenir le roi des hommes? Jésus-Christ ne fut pas roi d'Israël pour imposer des tribus, pour lever et armer des troupes, mais pour gouverner les âmes et les conduire dans le royaume des cieux. Si donc il a voulu être roi d'Israël, ce n'est point pour s'élever lui-même, mais par bonté pour nous. C'est un témoignage de sa miséricorde, plutôt qu'une marque de sa puissance. Car celui qui s'est appelé sur la terre le roi des Juifs est dans le ciel le roi des anges. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas, est roi parce qu'il est roi parce qu'il est Dieu. Il est roi parce qu'il est créateur et il est roi parce qu'il est rédempteur. Et c'était une partie très importante. Notre Seigneur Jésus-Christ est acclamé comme roi. Verset 15, « Voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Donc, attention à ces points qui sont extrêmement importants. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment roi. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose d'absolument fondamental. C'est vraiment un des dogmes de foi les plus importants. Notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi dans la société. C'est tout le travail apostolique de l'Église. Si vous supprimez la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous ne voulez plus que notre Seigneur Jésus-Christ soit roi de la société, eh bien, on détruit complètement la divinité de notre Seigneur. On voit très bien que ceci explique l'incompatibilité totale qui existe entre notre Seigneur Jésus-Christ et le monde moderne. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique, prêche la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est roi par nature parce qu'il est, il est créateur et par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Au contraire, le monde moderne, surtout en France, c'est très net, le monde moderne ne veut qu'une seule chose, une république laïque. Une république dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ n'a plus un seul mot à dire. Donc soit on met notre Seigneur Jésus-Christ au centre du monde, c'est l'Église catholique, soit on met l'homme au centre du monde et on adore l'homme, c'est la république bananière qui est la nôtre en France, une république laïque. Le laïcisme, c'est quoi? Le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le petit de l'ânesse sur lequel personne encore ne s'était assis, suivant la remarque des quatre évangélistes, et la figure du peuple des gentils qui n'était pas encore reçu, qui n'avait pas encore, pardon, reçu la loi du Seigneur. L'ânesse, puisque l'un et l'autre furent amenés au Seigneur, était le symbole du peuple fidèle qui se forma au milieu du peuple d'Israël. En montant sur cet anneau, notre Seigneur nous enseigne figurativement qu'il doit s'assujettir le peuple immonde des nations et il accomplit en même temps une prophétie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, là, va publiquement montrer sa divinité et le fait que ce peuple à qui il parle lui appartient, puisqu'il est, c'est lui qui a formé ce peuple. Oui, il y a quand même pas mal de choses dans cet évangile. Vous voyez, quand j'avais préparé, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais finalement, il y a beaucoup de choses à dire. Heureusement que le bon Dieu me donne les grâces d'enseigner correctement, j'espère. Son Écriture sainte, voilà, donc nous en sommes en haut de la page 12, et si Dieu veut, nous continuerons la prochaine fois. Terminons par une prière, parce que ça fait déjà une heure que je vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Je vous rappelle aussi que je n'ai plus de place pour les deux dernières retraites de l'année, retraite de septembre et d'octobre. Priez aussi pour que je puisse trouver un cuisinier, parce que mon cuisinier va devoir suivre des cours et il ne va pas pouvoir être là pour faire la cuisine, donc il faut que je trouve quelqu'un. Alors je confie cette intention à vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.